Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio, c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Et en cette période juste avant Noël, Stéphane, vous nous réservez alors quoi dans cette nouvelle chronique? Des petites surprises de Noël peut-être?
Bonjour Julie, ça va être une émission cadeau en fait quasiment, avec un invité exceptionnel on peut le dire.
Un cadeau.
C'est le plus grand libraire de Paris, en taille. C'est aussi un ami et c'est un professionnel remarquable. Je suis avec Jérôme Briot, donc qui est libraire. Vous allez nous dire comment s'appelle votre librairie après que vous nous ayez dit qui vous étiez.
Alors, la librairie s'appelle La Planète Dessin, comme un dessin. Et on est situé à Montparnasse, dans la petite rue Littré, qui est la première à gauche quand on descend la rue de Rennes, pour ceux qui voient.
Alors comment devient-on libraire BD ?
Quand on a vraiment très très envie de parler de toutes ces lectures à tout le monde, tout le temps, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs métiers. On peut faire journaliste, mais c'est difficile de vivre du journalisme culturel. Je m'adresse à des gens qui le savent. La librairie, c'est une activité extrêmement chronophage, mais un peu commerçante, et puis qui marche quand même. Voilà.
Quelle est la particularité du libraire de bande dessinée par rapport au libraire traditionnel? C'est une question que je me suis posée souvent en venant dans votre librairie.
Alors, le libraire spécialisé, en bande dessinée particulièrement, il a un gros avantage sur le libraire traditionnel. En librairie traditionnelle, il y a entre 70 000 et 100 000 nouveautés à l'année. Ça veut dire que tous mes confrères qui exercent cette profession sont presque tous des escrocs, puisqu'ils sont obligés de parler de livres qu'ils n'ont absolument jamais lus de leur vie. Pas plus de 3 minutes en tout cas, parce que matériellement, il n'y a pas moyen. Donc exceptionnellement, ils arrivent à lire un livre en entier. Et le libraire spécialisé bande dessinée, lui, a cette chance absolument énorme de pouvoir encore dominer son activité, connaître les auteurs, connaître les éditeurs, savoir dans le détail quels sont les grands courants et puis savoir de quoi il parle en fait.
Il y a combien de nouveautés? Est-ce que vous parliez de 70 000 en littérature générale, enfin avec les essais et tout ça?
Oui,
en bande dessinée, on a combien de nouveautés, de réimpressions? Combien de livres arrivent sur vos étals?
En gros, 5 000 par an, ce qui est tout à fait énorme. Hein. Donc, on ne peut évidemment pas tout lire, mais évidemment aussi, quand il y a un tome 92 de One Piece qui sort, eh bien, on n'a pas besoin de le lire, puisque personne ne va venir le chercher s'il n'a pas lu le tome 91 et de proche en proche, etc., le premier. Donc, le libraire a quelques astuces qui consistent à se concentrer sur les débuts de série.
Pour parler un peu de cet univers, de ce marché, comment se répartissent les grandes masses entre le manga, entre ce qu'on appelle le franco-belge, le roman graphique, ce genre de choses?
Oui, alors le manga représente à peu près 40% de la production en nombre de titres et seulement 25% du chiffre d'affaires, puisqu'un manga ça coûte pas très cher. Ça occupe quand même pas mal d'espace. Après, il va y avoir le segment jeunesse, auquel on pense spontanément quand on parle de bande dessinée, parce que tout le monde a un rapport de jeunesse et de jeune lecteur avec la bande dessinée, alors que c'est pas un segment dominant en termes de production. Il y a peut-être 10% des titres qui sortent qui sont destinés vraiment à la jeunesse, ce qui est un petit souci d'ailleurs. Il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont fixés pour mission dans le futur de recruter plus et donc de travailler plus la jeunesse. Et puis le reste, les 90% restants, y a une bonne part de bandes dessinées, album, format album traditionnel, qu'on appelle franco-belge, dans toutes les séries que tout le monde a en tête, sur le format des Tintins, des Astérix, etc. Donc ça, c'est à peu près 40% de l'édition, on va dire.
Et est-ce qu'il y a un public particulier qui vient acheter de la bande dessinée, ou est-ce que c'est monsieur tout le monde qui s'intéresse à ce médium?
Alors je ne sais pas, puisque moi je ne vois que le monsieur tout le monde qui pousse la porte des librairies, mais ce qu'on voit dans les études nationales, c'est qu'en gros un Français sur deux n'achète jamais de livres. Alors j'espère qu'il va à la bibliothèque, mais je n'en suis pas sûr, puisque les mêmes études montrent que dans les quartiers où il y a une bibliothèque et une librairie, on emprunte plus de livres à la bibliothèque et on achète plus de livres à la librairie que dans les quartiers où il y a une seule de ces deux structures. Et donc a fortiori, on peut se dire que plus il y a de sources d'approvisionnement culturel et plus les gens fréquentent les destinations culturelles.
Donc oui, il n'y a pas de public particulier.
Non, ça concerne un petit peu tout le monde, mais c'est quand même un public de gens qui ont fait le choix d'ouvrir un livre plutôt que de rester sur un appareil digital ou un smartphone ou n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça ressort d'un vrai choix de vie, en fait.
Une question de genre, parce que j'ai cru lire que la bande dessinée, c'était plutôt quelque chose pour les garçons. Est-ce que c'est vrai dans les librairies spécialisées ?
De moins en moins. Ça a longtemps été vrai, et puis ça l'est de moins en moins, d'abord parce que la profession se féminise, il y a de plus en plus d'autrices qui sont de mieux en mieux mises en avant, il y a de plus en plus d'éditrices également, et donc ça a pu être un problème pour des dessinatrices ou des scénaristes femmes de n'avoir que des interlocuteurs hommes à une époque, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et puis en librairie, alors on a quand même à peu près une personne sur deux du genre humain féminin, ce qui est à peu près la proportion humaine qui existe d'ailleurs.
Un peu de choses près, ouais.
Pas toujours pour elle-même. C'est vrai qu'il y a un léger biais qui est, il y a beaucoup de dames qui viennent acheter pour faire des cadeaux et pas forcément pour elles-mêmes. Ce qui est moins vrai en littérature où la courbe est inverse apparemment.
Une question à 1 milliard d'euros, j'allais dire. Est-ce que vous savez, quand les livres arrivent sur les étals, si ça va être un succès ? Est-ce qu'il y a des trucs, des choses qu'on peut remarquer ? Est-ce qu'il y a des surprises aussi ?
Alors, il y a tout le temps des surprises. On ne sait pas, et puis on introduit soi-même un biais, c'est-à-dire qu'un bouquin peut être le succès annoncé, et puis il va faire un flop parce qu'on ne sait pas le défendre ou parce qu'on n'a pas envie de le défendre, ça arrive. À l'inverse, tout le temps, j'ai dans mon top 10 de l'année des bouquins en provenance d'éditeurs alternatifs, mais qu'on a tellement adoré qu'on a envie d'en parler à tout le monde. Donc tous les cas existent. Ce qui est certain, c'est que, et puis ça a été éprouvé de nombreuses fois au cours des dernières années, les grandes séries très attendues, quel que soit le niveau qu'elles proposent, obtiennent un succès qui n'a rien à voir avec la performance du libraire. J'entends par là un mauvais Astérix ou un mauvais cru chez Corto Maltese ou
Blake et Mortimer.
De toute façon, les gens sont au rendez-vous parce qu'ils ont besoin, ils ressentent le besoin d'avoir la collection complète.
Ça, c'est positif pour les libraires BD.
Oui et non. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Canal BD, qui regroupe une grosse centaine, 100-120 librairies spécialisées, bandes dessinées sur tout le territoire français. Autant on peut faire le succès d'un certain nombre de titres, autant sur Astérix par exemple, tout Canal BD représente à peu près 25 000 titres, 25 000 ventes pour une nouveauté. Ce qui est bien individuellement, hein, quand on divise par 120, alors j'arrondis, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Mais sur 2 millions de tirages, 25 000, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Donc en fait, sur ce genre de titre, le libraire spécialisé n'a plus absolument aucun rôle. Ce sont des bouquins que les gens récupèrent, achètent au premier endroit où ils le trouvent, qui peut être une grande surface alimentaire, une station-service ou n'importe quel lieu. Et le libraire n'a, encore une fois, aucun travail à faire là-dessus.
Alors, autre question, quel est l'intérêt pour l'amateur de venir dans une librairie spécialisée BD plutôt qu'acheter sur Amazon ou à la Fnac ou dans des grandes... Je compare pas la qualité, hein, mais c'est une question qu'on peut se poser.
Alors, déjà, il n'y a pas de contre-indication. Le libraire, ce n'est pas un petit épicier à côté d'une grande surface. Le libraire a la chance d'être dans un marché protégé dans lequel chaque bouquin a son prix qui est décidé non pas par le détaillant, mais par l'éditeur directement. Donc, quel que soit le titre, on paie le même prix dans une petite librairie, dans une grande librairie, dans une surface spécialisée ou alimentaire. Maintenant, l'accompagnement peut être différent chez un libraire, particulièrement quand il est passionné et puis quand vous avez des affinités avec lui, c'est-à-dire que le libraire partage des lectures. Et ça fait vraiment la différence, parce que justement, il y a 5000 nouveautés par an, donc c'est quand même une jungle. Et quand on entre dans un lieu spécialisé, il y a des myriades de titres qui existent. Et c'est un petit peu compliqué de faire son chemin et de savoir exactement quel est le livre parfait pour l'oncle Ernest ou le petit cousin Hugo. Voilà. Ou pour soi-même, d'ailleurs, souvent. Hein, à part le hasard, souvent, trouver un choix pertinent en librairie, ça va être plus rapide et plus simple si on se fait aider par un libraire qui, lui, va pouvoir témoigner de sa propre expérience de lecture, comme le feraient vos amis dans une discussion au coin du feu.
Et quand on va dans une librairie comme la vôtre, on est estomaqué par le nombre d'albums présents. Il y en a vraiment des milliers, je ne sais pas combien il y en a à la planète Dessin, mais c'est des milliers.
À peu près 13 000, mais ce qui rend modeste, parce qu'à la fois c'est énorme et à la fois c'est 2 ans et demi de production. Donc
voilà. 13 000, quelle est la part de vente ou de marché entre les nouveautés et puis le fond qui est là, c'est-à-dire les bandes dessinées de patrimoine, plus oui. ou moins ancien d'ailleurs.
Pas toujours facile de déterminer cette proportion, même si j'ai souvent essayé, parce que les outils que j'utilise ne permettent pas forcément facilement. Ce que je vois, c'est que on vend à peu près 12 000 bouquins différents par an. Donc ça, c'est y a une espèce de profondeur absolument énorme. Alors la plupart à l'unité, y a beaucoup de titres qu'on ne vend qu'une seule fois dans l'année. Et à côté de ça, nos best-sellers, on va être capable de monter à 200, 300, et puis dans des cas exceptionnels, 750, s'agissant de Imbattable de Pascal Jousselin chez Dupuis, que je ne cesse jamais de promouvoir comme aujourd'hui.
Non, je sais, vous m'en avez parlé presque à chaque fois qu'on s'est vu, en fait. Donc ça dit, c'est un excellent album qu'il faut lire pour son intelligence narrative, surtout, quoi. On lit beaucoup dans les revues, en discutant avec des auteurs, qu'il y a une surproduction de bandes dessinées, dont les auteurs se plaignent énormément. Est-ce que le libraire se plaint lui aussi de la surproduction ?
Non, et ce qui me surprend, moi, c'est que les auteurs ne soient pas contents d'avoir des concurrents, et puis surtout d'être traités souvent comme des... Leurs parutions sont traitées comme des magazines, donc on peut avoir un livre qui reste 3 semaines en facing... chez le détaillant, ce qui est calamiteux, évidemment. Donc je comprends le désarroi des auteurs. En revanche, certains lecteurs font leur cette problématique et ne devraient pas, parce qu'on vit un âge d'or en tant que lecteur. On a une profusion, il n'y a jamais eu autant de bouquins et il n'y a jamais eu autant de bons bouquins. Donc c'est formidable. Et c'est la meilleure période possible pour se rendre dans une librairie de bande dessinée. C'est notre époque. On a la chance de faire partie du marché le plus ouvert au monde sur la diversité mondiale de la bande dessinée. Je veux dire par là que les Japonais ne lisent que du manga, les Américains lisent du manga et leur propre production, et nous en France, on a des éditeurs qui vont chercher du manga, de la bande dessinée américaine, la production locale et de la bande dessinée dans tous les pays du monde, y compris Brésil, l'Inde ou le Togo. Enfin voilà, on est dans un marché génial pour ça.
On a parlé de votre travail. Maintenant vous êtes libraire BD, Noël approche. Est-ce que, avant de se quitter, vous pouvez nous parler de quelques titres qu'il faut absolument glisser dans la hotte du Père Noël, si on y croit?
Et on aurait bien raison d'y croire. Le Père Noël s'approvisionne chez nous, donc faites comme lui. Alors bon, un des bouquins qui a vraiment marqué l'année, c'est Les Indes Fourbes de Guarnido, l'auteur de Black Sad, et Alain Hérol, qui est le scénariste de Decap et Decroux et Garulfo. Alors Les Indes Fourbes, c'est une saga picaresque avec un personnage qui a été emprunté à un romancier du XVIe siècle, Don Pablos, qui est un aventurier prêt à absolument tout pour échapper à sa condition de gueux. Et donc dans une grande quête de l'Eldorado à l'époque des conquistadors, avec un dessin à tomber par terre. C'est un album one shot, 160 pages, récit complet donc, et c'est épatant.
Oui, c'est une vraie aventure, une grande aventure.
Une grande aventure, avec une métaphore filée à Velázquez dès la couverture, et puis un certain nombre de personnages comme ça qui sont repris. Enfin, de tout point de vie, l'œil s'émerveille, l'esprit s'émerveille devant cette lecture.
Un deuxième,
alors que j'ai beaucoup aimé, parce que peut-être la meilleure histoire de pirate de l'année, voire de la décennie, Barlovento aux éditions Varum. On a un jeune homme qui se croyait petit noblio avec un papa tout tranquille et qui découvre que son père est en fait un grand chef de piraterie surnommé Mille Orages. Et les auteurs qui sont argentins, je crois que c'est leur première bande dessinée parue en France, les auteurs convoquent absolument tout ce que l'océan peut ramener de créatures fantastiques. Alors c'est le Kraken, c'est Moby Dick, ce sont les sirènes, le dieu du vent Éole, et même le sous-marin jaune des Beatles. Donc tout ce bestiaire est convoqué dans différents chapitres d'un récit de pirate à la fois légendaire et épique.
Et puis un troisième.
Alors pour changer un petit peu, un bouquin d'humour. Un titre paru chez Flûte Glaciale par Emmanuel Reusé qui s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Beaucoup de gens ont lu « Zai 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 » de Fab Caro, qui doit en être à sa 25e édition ou pas loin. « Faut pas prendre les cons pour des gens », c'est un peu le même type d'humour, c'est-à-dire on a du gag absurde par page, mais avec une dimension sociale et critique de société plus importante, et puis un dessin réaliste de toute beauté, et chaque page est hilarante, donc voilà, faut y aller, c'est un petit bouquin qui coûte pas cher et qui est génial.
Et comme on a une très grande hotte en fait, encore un autre. Ou deux autres même.
Oui, alors le rapport W de Gaëtan Nock chez Daniel Maguen est un pur chef-d'œuvre. Il était en compétition pour le prix de la critique de l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée cette année. C'est l'histoire d'un espion polonais qui s'infiltre à Auschwitz en 1941. Il prend la place d'un autre prisonnier, il prend son identité dans le but de créer un réseau de résistance et une insurrection à l'intérieur du camp. Alors curieusement, ce n'est pas un récit de Shoah, puisque en 1941, le camp d'Auschwitz n'était pas encore destiné aux prisonniers juifs, mais plutôt aux opposants politiques polonais. Et donc, on suit le destin et la préparation de cette insurrection par cet espion polonais, et le dessin est magnifique, et c'est vraiment un très très grand livre à réserver aux amateurs d'histoire qui vont y trouver quelque chose d'absolument exceptionnel, aussi bien dans la narration dessinée que dans le dossier d'accompagnement qui est coordonné par une historienne, et ce livre, je crois, vient de recevoir le prix de la meilleure bande dessinée historique, du meilleur témoignage historique de l'année en Pologne, ce qui n'est pas rien.
Oui, c'est une histoire vraie. Voilà,
c'est une histoire vraie, tout à fait.
C'est pas du tout un roman. Et enfin, pour finir.
Eh bien, pour finir, peut-être le bouquin qui contient les dialogues les plus savoureux de l'année, Detection Club, par Jean Aramba. Detection Club, c'est un club qui a existé dans les années 1930 en Grande-Bretagne, qui réunissait les romanciers de polar britanniques, qui s'étaient fixés une sorte de décalogue, de 10 commandements, de choses à faire pour qu'un récit policier soit le meilleur possible, sachant que dans l'esprit de ces gens-là, dont Agatha Christie, qui en était le membre le plus éminent, un polar n'est pas une opposition entre un criminel et un détective, mais une opposition entre un lecteur à qui on fournit tous les indices et le romancier qui doit néanmoins réussir à embobiner le lecteur. Et l'auteur donc imagine que le Detection Club est invité au grand complet par un millionnaire excentrique pour un week-end sur son île privée, parce qu'il veut leur montrer un automate de sa conception capable de résoudre toutes les enquêtes criminelles. Il y a des automates qui jouent aux échecs. Là, c'est un automate qui résout les enquêtes criminelles. Évidemment, il va y avoir un meurtre en chambre close sur cette île, et nous avons donc 7 apprentis détectives qui veulent chacun être le ou la première à résoudre l'enquête à sa manière, pour montrer aux autres ses compétences. Et vraiment, Jean Aramba, en plus d'une documentation extrêmement soignée, extrêmement solide, met un humour dans son texte qui est phénoménal. Alors j'en veux un bon exemple. Le millionnaire excentrique dont on parlait, il a une femme jeune et jolie à qui Agatha Christie à un moment demande « Mais madame, combien avez-vous eu de maris ?» Et cette dame répond « en comptant les miens ?» Voilà, tout est comme ça et j'adore.
Et Jean Aramba, d'ailleurs, l'an dernier, avait publié un album extraordinaire sur une espèce de supercherie cinématographique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était là aussi très drôle, savoureuse et documentée.
Oui, ça s'appelait Opération Copperhead, une opération qui a vraiment existé, où les services britanniques de l'armée essayent d'enfumer les Allemands en leur faisant croire que le débarquement se prépare par la Provence, et donc en montrant un sosie du général Montgomery en Afrique du Nord.
Et on a Peter Ustinov, enfin, on a tout un tas de stars dans cette bande dessinée. Et moi j'ajouterais les deux imbattables dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que je les ai relus avec ma fille cette semaine, et je dois dire que c'est une jouissance à chaque fois qu'on s'attaque à ces planches.
Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y aura un troisième volume en novembre ou septembre 2020, mais en tout cas ça arrive, c'est en préparation.
Eh bien, je vous remercie Jérôme, et j'espère qu'on va se retrouver régulièrement comme ça pour faire des petits points, conseils pour les auditeurs du Art District. Peut-être pour les vacances, Julie, on verra ça. Comment on peut organiser une chose pareille?
Ah bah oui, par exemple, plein de petites listes au Père Noël ou pour les vacances, dans les sacs à dos des enfants, dans les sacs des adultes aussi. Merci beaucoup Stéphane pour cette nouvelle bulle d'histoire. Merci Jérôme pour cette liste au Père Noël. On va se dire joyeux Noël peut-être?
Bah, joyeux Noël, il n'y a pas de raison.
Et donc on se retrouve après les vacances.
Au revoir.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Hein ? Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.